9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Michel Simès.
Bonjour Philippe.
Est-ce qu'il faut encore vous présenter? Vous êtes l'un des animateurs préférés des Français, le médecin le plus célèbre de France. Vous présentez pas moins de 3 émissions sur le service public, plus un nouveau personnage de vétérinaire dans un téléfilm L'Avenir, Cambrousse, plus votre magazine de presse écrite Dr Good, et vous lancez même les cahiers du Dr Good. On dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Est-ce que vous dormez bien?
Je dors peu, mais vite, comme disait Einstein. Mais je dors très peu. En fait, je suis un petit dormeur, comme on dit.
Ouais.
Et j'ai la chance de pouvoir récupérer en 5-6 heures de sommeil. Ça me va très bien. Je ne mets jamais de réveil. Tous les matins, je suis réveillé entre 5 et 6 heures. Et ça me va suffisamment bien.
Je connaissais un Suisse qui disait « Moi, je suis Suisse et je dors lentement ». Je vous pose la question du sommeil à cause, évidemment, de votre actualité. Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Le thème « Fatigue, insomnie, ronflement, comment dormir mieux ?» Ça sera demain sur France 2 à 21h en compagnie de votre complice Adriana Carambeu. Je vais commencer par des chiffres. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la durée de nos nuits est passée en dessous des 7 heures. Un accident de voiture sur 3 est causé par la somnolence. Et 15 à 20% des Français sont des insomniaques chroniques. C'est une émission qui demande beaucoup de travail. On vous voit dans plein d'endroits. L'émission que j'ai vue dure 2 heures. Beaucoup de rencontres. Comment vous avez travaillé?
Oh, on a travaillé d'abord, il y a un énorme travail en amont hein, qui est effectué par toute l'équipe dirigée par Peggy Olmi, et on travaille beaucoup en amont, et après avec Adriana on met une semaine pour tourner tout ça. Alors c'est vrai qu'on s'est beaucoup donné dans cette émission. D'abord, on a beaucoup rigolé. J'espère qu'en la visionnant, vous êtes bien marré.
Oui, et puis il y a même, je précise, il faut regarder l'émission jusqu'à la fin parce qu'il y a un bêtisier à la fin.
Il y a un bêtisier à chaque fois au générique de fin qui est très drôle aussi. Et en fait, on s'est prêté à plein d'expériences avec Adriana et on s'est aperçu. Alors moi, je savais que j'étais plutôt du matin et elle est plutôt du soir. Et on a même passé des tests pour nous montrer que... Il y a des choses que moi, je ne peux pas faire le soir et qu'elle ne peut pas faire le matin, par exemple.
Vous avez également rencontré une coach sportive qui explique qu'il vaut mieux faire du sport à la lumière du jour, ce que j'ignorais complètement, ouais. Et plutôt faire des exercices doux en fin de soirée. Ça, on s'en doutait un petit peu. Et c'est là, à cet instant, Michel Simès, que vous prenez la parole.
Si je vous écoute, il faut éviter le sexe le soir avant de s'endormir, alors.
Alors non,
parce que
ce n'est
pas vraiment de la détente, ce n'est pas du yoga, ce n'est pas du pilate.
Ça dépend, le yoga...
Non mais c'est vrai que quand on fait l'amour, on dépense beaucoup d'énergie. Donc
on
c'est des charges d'adrénaline, oui. il y a le plaisir qui excite le cerveau. Donc.
Oui absolument, donc c'est une excitation forte mais qui après fait redescendre complètement au niveau de l'énergie.
Ça, je vous confirme,
et favorise l'endormissement. Donc c'est plutôt très bonne idée d'avoir des relations sexuelles avant de dormir pour favoriser l'endormissement des deux conjoints.
Et par rapport au sport, vaut mieux faire l'amour après le sport ou avant ou pendant?
On vous reconnaît bien là.
C'est marrant, je ne m'attendais pas du tout à ce que vous preniez cet extrait.
Je veux dire, c'était la seule fois que vous parliez de sexe dans l'émission, et c'est un petit peu un nouveau personnage de Michel Simès, blague à part justement. Première séquence très forte qui se passe dans un lit avec Adriana, mais ce n'est pas ce qu'on croit. Vous devez dormir sur une paroi à pic, à flanc de montagne. Et finalement, vous n'avez pas dormi là-bas.
Non,
pour quelle raison?
Parce que je flippe. Moi, j'ai tout.
J'ai eu le malheur. Ils vous ont vraiment fait la surprise, comme c'était raconté.
Oui, ils m'ont fait la surprise. Et en fait, tout est parti de la première émission qui se passait au Mont Blanc.
Ouais.
On avait, avec Adriana, on était parti faire l'ascension. Et moi, j'ai peur du vide. Voilà, c'est comme ça. Ça ne s'appelle pas des vertiges, ça s'appelle la peur du vide. Et depuis que j'ai eu le malheur de dire ça, pratiquement à chaque émission, ils me mettent à l'épreuve. Et donc là, effectivement, il y avait une sorte de bâche sur qui avait 200 ou 300 mètres de gaz en dessous, et il fallait qu'on dorme là. J'ai pas pu, je le reconnais, mais on le dit, hein, on fait pas semblant.
Bien sûr,
pendant
l'émission. C'est comme ça que je l'ai su. Il y a une voix off qui dit, contrairement à ce qu'il a dit, finalement, il l'a pas fait.
J'ai pas voulu parce que j'aurais pas fermé l'œil de la nuit, que ça n'avait strictement aucun intérêt.
Magnifique séquence consacrée à la sieste que vous défendez parce que c'est absolument pas une activité de tir au flanc. Je vais donner un seul chiffre absolument dingue que je ne trouve plus. Si le risque de maladie cardiovasculaire est réduit quasiment de moitié quand on fait 1 à 2 siestes par semaine, vous défendez la sieste.
Oui, je défends la sieste et alors je la défends d'autant plus que je la pratique régulièrement. Alors moi j'ai la chance aussi, je vous avais dit que j'étais un petit dormeur, mais j'ai la chance aussi de pouvoir faire des micro-siestes. C'est-à-dire que je me pose, au bout de 30 secondes je tombe et je m'allonge, je ferme les yeux, je dors et au bout de 7 à 10 minutes je me réveille. Et quand on peut s'entraîner à faire ça, c'est quand même une récupération extraordinaire et effectivement tout ce qui facilite le sommeil et qui évite la dette de sommeil diminue les risques cardiovasculaires. cardiovasculaires et diminue les effets du stress.
Ce qui est très intéressant dans ce long doc, c'est comment on fait quand on n'a pas le choix, quand on est en manque de sommeil à cause de sa profession. 16% des Français travaillent la nuit, à commencer par les infirmières, les pompiers, les agents de sécu, les chauffeurs routiers. En quoi le travail de nuit peut être dangereux pour la santé?
Alors, il est dangereux pour la santé parce qu'il est complètement antiphysiologique. Nous avons un cerveau, notamment une glande qui s'appelle l'hypothalamus, qui va s'adapter aux règles veille-sommeil et nuit-jour. Et quand vous décalez tout ça, vous le voyez bien, quand vous faites un voyage dans un pays dans lequel il y a un gros décalage horaire, vous avez un jet lag qui vous met à plat. Enfin, c'est très compliqué. Ouais. On dit qu'on se recale d'une heure par jour à peu près. Mais quand, comme dans le cas de notre ami qu'on a suivi à Rungis, qui vend des fruits et légumes, on va le chercher à 2h du mat chez lui et que tous les matins, il doit être à 3h ou à 4h à Rungis, pour s'occuper de son boulot, vous imaginez que la vie sociale est complètement perturbée et que son rythme biologique à lui l'est aussi.
Justement, il s'appelle Boris, il a 40 ans, il est grossiste en fruits et légumes et il pose une bonne question.
Boris, ça donne envie d'arrêter, non? Parce que les problèmes cardiovasculaires, les risques d'obésité, de diabète, d'irritabilité...
Non mais ça m'interpelle sur plusieurs choses là-dessus et j'avais envie de te poser une question, Pierre, c'est... Est-ce que finalement, au jour où l'État interdit beaucoup de choses sous prétexte de protéger la vie des concitoyens, est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement arrêter le travail de nuit et légiférer là-dessus en disant que seules les choses essentielles devraient être faites la nuit?
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Mais il a raison de poser la question.
Votre réponse, en tant que médecin
En tant que médecin, bien évidemment, tout ce qui est antiphysiologique et qui est mauvais pour la santé, on devrait interdire tous ces métiers. Mais comment vous voulez faire? Vous voulez empêcher des infirmières ou des médecins de faire des gardes de nuit?
Non, mais Rungis, par exemple.
Vous voulez empêcher? Rungis, il faudrait effectivement légiférer pour que les fruits et légumes soient plutôt acheminés un peu plus tard dans la journée, ce qui n'est pas complètement dramatique. On pourrait organiser tout ça.
Ouais.
Mais après, il y a la force des habitudes, des syndicats, il y a tout ce que vous voulez.
Voilà, puis au passage, j'ai une petite pensée pour toute la rédaction d'Europe 1 et toutes les rédacs qui arrivent au bureau entre 2h et 3h du matin. Et là, on n'a pas le choix pour informer les gens entre 5h.
Sinon, vous ne faites pas d'antenne jusqu'à 9h et puis vous ouvrez l'antenne à 9h.
Vous restez avec nous?
Oui.
On est encore ensemble pour une bonne petite partie de la matinée avec Michel Simès, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Le temps de remettre mon masque, parce qu'évidemment, les gestes barrières, il faut les pratiquer à la radio. Nous sommes avec Michel Simès, on parle de cette émission, Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. C'est avec votre complice, Adriana Carambeu. Ça passe demain. Il y a une expérience absolument incroyable qui est faite, car le sujet, c'est le sommeil, mais vous intéressez également au rêve. Des expériences qui ont filmé des malades pendant la nuit en train de rêver, dont un vieux monsieur. Il chante des chansons de corps de garde qu'il avait complètement oubliées, ou alors qu'il se bat contre des ptérodactyles avec son oreiller. C'est très drôle à voir. Mais ce qu'il y a de passionnant, c'est que cette personne est atteinte de la maladie de Parkinson. Or, pendant qu'elle rêve, elle ne tremble plus, elle ne manifeste plus les signes de la maladie. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette découverte?
C'était assez incroyable de voir ces images, effectivement, en dehors du côté un peu insolite et rigolo de le voir se battre contre des fantômes. Mais effectivement, normalement, ce monsieur, même lors de ses mouvements pendant le sommeil, devrait avoir des mouvements saccadés qui sont symptomatiques du Parkinson, ou trembler. Or, il a une fluidité des gestes qui est incroyable pour quelqu'un qui a un Parkinson. Ce que nous explique le professeur Arnulf, qui est notre spécialiste, notre expert pendant cette séquence, c'est qu'il y a probablement une déconnexion pendant le sommeil entre la zone responsable du Parkinson, c'est-à-dire cette fameuse zone qui doit sécréter de la dopamine et qui manque, et la zone probablement motrice. Et tout l'intérêt des recherches qui sont menées actuellement, c'est de savoir, puisqu'on arrive à déconnecter tout ça pendant le sommeil, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de le faire aussi pendant la veille, et donc essayer de trouver un moyen, peut-être par des médicaments ou autre, de déconnecter un peu ces deux zones. Mais c'est, enfin, en tant que médecin, moi j'en ai vu des Parkinson, c'est hallucinant de voir ce monsieur qui bouge les bras et les jambes comme s'il n'était pas malade.
Je confirme, moi qui ne suis pas médecin, je confirme, j'étais vraiment estomaqué également. Actualité immédiate, vous en doutez, on va parler de la crise du Covid. Comment vous jugez la gestion, non pas de la crise, mais de la vaccination par l'exécutif? Parce qu'on est passé au-delà.
Oui, je crois. Bon, on ne va pas faire langue de bois, ça ne va pas assez vite. Je pense qu'on a loupé un peu le départ dans les starting blocks et qu'on va essayer d'arranger les choses.
Ça ne va pas assez vite, par choix? Ou est-ce fait qu'on soit très mal organisé?
Non, ça, je crois que ça masque rien du tout. Ça masque le fait qu'on a été traumatisé par le H1N1 et les vaccinodromes. et que l'exécutif aujourd'hui n'a pas voulu se mettre à la place qui était celle de Roselyne Bachelot à l'époque, qui s'en a pris plein la tête parce qu'on a organisé ça à grande échelle et puis que ça n'a pas marché, manifestement, plus une grippe qui n'a pas été aussi catastrophique que l'aide Covid aujourd'hui. Donc, je pense qu'ils se sont dit, oulala, on va y aller doucement. Et puis, on est un pays dans lequel la bureaucratie... Quand on voit que, vous savez bien qu'il faut des congélateurs qui permettent de maintenir les doses à moins 80, et d'après ce que j'ai lu, il y a je ne sais pas combien de pourcents de ces congélateurs qui attendent le feu vert de l'État, enfin une approbation, enfin c'est pas possible quoi.
10% ai-je lu hier soir. Ouais. Dernière initiative du gouvernement, enfin dernière, la plus récente, j'ai cru à une blague, je l'ai relu trois fois hier, je me le suis fait confirmer par mon rédac-chef Antoine Janton. 35 Français vont être tirés au sort dès ce lundi pour se prononcer sur la stratégie vaccinale. C'est-à-dire, ils vont dire, est-ce qu'on vaccine trop vite ou trop lentement? Est-ce qu'on vaccine à la bonne vitesse? Les bonnes personnes? Question à vous, Michel Simès, vous êtes médecin. Est-ce que les médecins de ce pays ne sont pas capables de répondre à ces questions? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir l'avis de gens qui n'ont aucune compétence sur ce sujet?
Écoutez, j'ai vu passer cette info comme vous et j'ai aussi été très étonné en me demandant si finalement il était vraiment nécessaire de pousser la démocratie jusqu'à ses extrêmes qui consistera à demander à 35 personnes représentatives des Français ce qu'elles peuvent penser de la campagne de vaccination. Effectivement, nous avons des experts, il y a un comité scientifique autour de Macron, il y a des voilà, il y a tout le monde aujourd'hui va dans la direction d'une campagne de vaccination. J'aimerais pas être ministre de la Santé aujourd'hui, et je crois qu'Olivier Véran fait très très bien son boulot. Il y a des problèmes, il y a eu des retards au décollage, il y a eu des problèmes pour la campagne de vaccination. Ok. Je crois que c'est un boulot difficile. Après, je ne suis pas sûr que ces 35 volontaires ou ces 35 personnes tirées au sort vont nous apporter grand-chose.
Vous avez dit que la parole des experts, des autorités de santé, était devenue inaudible. Pour quelle raison ?
Parce que tout le monde s'exprime, et à partir du moment où la parole médicale est dépassée par la parole politique, vous décrédibilisez tout le monde, parce que les politiques n'ont pas été à la hauteur depuis le début de cette crise. Il y a eu des polémiques politiciennes, tout le monde devrait aller dans le même sens, et aujourd'hui, vous le voyez, avec le retard à la vaccination, on entend l'opposition se déchaîner, etc. Aujourd'hui, il faudrait peut-être que tous nous faisions en sorte que ça aille mieux, que la vaccination arrive plus vite, etc. Donc oui, il y a eu des erreurs, oui, mais j'ai commis des erreurs aussi, comme beaucoup d'informateurs santé.
Vous aviez parlé de grippette et vous avez fait amende
honorable. Non, Philippe, je n'ai jamais parlé de grippette.
Ah bon ?
Et justement, pourtant vous êtes un journaliste reconnu.
J'ai même relu hier dans des papiers.
Mais oui, mais vous voyez, même vous, Philippe Vandel, voilà, avec une telle expérience, avec une telle bouteille, et ben vous reprenez ce que vous avez lu. Je suis désolé, je n'ai jamais dit que c'était une grippette. La seule fois où je parle de grippette, c'est chez Barthez
dans Quotidien. C'était le 16 novembre.
Il me dit, est-ce que c'est une grippette? Je lui dis non, c'est pas une grippette. Sauf que une responsable politique a envoyé un tweet quelques temps après en disant si message hashtag grippette, et ça a été repris par tous les journalistes qui font du copier-coller. Je n'ai jamais dit que c'était une grippette.
Amende honorable, je l'ai lu hier dans un papier, exactement ce que vous citez, et le défaut de ce métier, parfois, quand on recopie une source prétendue fiable. Autre actualité, vous en avez tellement, Michel Simès, le 12 janvier, la semaine prochaine, le magazine Prenez soin de vous, le thème c'est le mouvement, bande annonce.
Se remettre en forme, lutter contre la sédentarité, se réconcilier avec son corps, améliorer ses habitudes de vie. C'est ce que je vous propose de découvrir ici, dans ce lieu unique. Un lieu dans lequel j'ai réuni les plus grands experts dans leur domaine. Vous allez enfin comprendre comment prendre bien soin de vous.
Combien d'émissions vous avez ? Celle-ci, elle va continuer ?
Alors celle-là, là on a trois émissions. Il y en a une qui a été diffusée. Là, il y en a une qui est diffusée mardi prochain et une le mardi d'après. Ouais. C'est une super émission dans laquelle on va expliquer aux gens qu'on peut prendre soin de sa santé, qu'on peut sortir de la sédentarité, du surpoids. Alors bien sûr, nous on a accompagné avec des coachs, mais on peut très bien vivre. Et vous allez voir, c'est une émission très très sympa et très émouvante.
Il y en aura d'autres, elle va continuer, j'ai plein de questions médias à vous poser.
Eh bien, celle-là, on va voir les résultats de la diffusion, on fait de la télé pour les gens, donc si ça marche, on continue, si ça marche pas, on s'arrête.
Cambrousse, téléfilm dans lequel vous incarnez un vétérinaire.
Ouais. Début, alors ça s'appellera probablement pas Cambrousse, c'était le nom de travail. Mais ça va être diffusé, je pense, en début d'année. J'incarne effectivement un vétérinaire. On a tourné pendant un mois avec Dunia Cossens en Auvergne.
C'est un one-shot ou c'est une série ?
C'est un one-shot. Si ça marche, ça fait une série.
Et vous êtes également ambassadeur santé pour les JO de Paris 2024. Ouais. Ça consiste en quoi ?
Ça, c'est une grande fierté. Tony Estanguet m'a demandé de prendre effectivement... cette mission, je suis représentatif d'un collectif qui s'appelle Pour une France en forme, avec notamment Gérard Saillant, enfin tous les plus grands médecins du sport en France. Et le but, c'est de sortir les Français de la sédentarité d'ici Paris 2024, parce que la sédentarité, c'est une catastrophe sanitaire, et donc je vais porter la bonne parole jusqu'au jeu et après.
Merci beaucoup Michel Simès. Culture Média continue. Je rappelle que les pouvoirs extraordinaires du corps humain, c'est demain. Nous, dans quelques instants, on sera avec Eva Rock pour son zapping du lendemain, Bertrand Chamerois pour son écran de veille. Il a passé le nouvel an devant la télé. Roberto Alagna, le ténor qui consacre pour la première fois de sa carrière un album à la chanson française. Et puis dans les indispensables, un immense compositeur de la Renaissance, Josquin des Prés, mort il y a 500 ans. Rien que ça, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.